Chapitre 24. Cette promenade à travers bois était un plaisir pour Violette. La journée était si belle. Et maintenant que sa causerie confidentielle avec Rory avait apporté quelque adoucissement à son irritation, Vixen, le cœur plus léger, était aussi sensible que jamais à tous ces enchantements de la forêt qui, le matin même, la laissaient en proie à sa colère. Née dans la forêt, elle aimait ses bois comme Wordsworth ses lacs et ses montagnes, comme Byron le paysage nu et aride qui entoure la ville d'Aberdeen. Leur poésie et leur beauté remplissaient son cœur d'une joie profonde. Elle était heureuse de les parcourir en tous sens. Mais aujourd'hui, quand son cœur avait été si cruellement blessé, quelle consolation que la compagnie de Rodrigue Vaudrey. C'était comme un feuillet arraché au volume à jamais fermé d'un passé béni et regretté. Que de choses ils se dirent en faisant route vers l'abbaye, causant gaiement et sans contrainte, et revenant sans cesse aux jours écoulés. Pas une phrase qui ne commença par ces mots « Vous souvenez-vous ? » Depuis bien longtemps, Vixen n'avait été aussi gaie, bien que parfois elle pensât à ce pauvre Bullfinch, ballotté dans un wagon de chemin de fer, s'ébrouant aux moindres secousses du train et pris de panique dans les tunnels. Le soleil était à son déclin lorsque Miss Tempest et son compagnon approchèrent de l'abbaye. Ils passèrent devant la maisonnette du garde, à cette grille que Titmouse avait si souvent franchie avec sa jeune maîtresse. Ils traversèrent ensuite le bois de rhododendron. Comme d'habitude, la porte du hall était ouverte, et le vieux chien du baronnet était couché en travers du seuil. À l'intérieur, tout était en émoi. Des malles, des boîtes à chapeaux, des sacs de voyage, des parapluies, des couvertures gisaient çà et là. Mrs. Winstanley était étendue dans le large fauteuil près de la cheminée. Elle s'éventait avec un grand éventail. Pauline se tenait debout à côté d'elle. Forbes apportait la théière d'argent. Son honnête figure était toute troublée. Le capitaine était debout, le dos appuyé à la cheminée. À son air, on reconnaissait le maître rentré chez lui d'une humeur exécrable. Violette s'avança vers Mrs. Winstanley. Elle oubliait tout dans la joie de revoir sa mère. Jamais jusque-là, la mère et la fille n'avaient eu à subir une séparation aussi longue, et la voix du sang était plus forte que tout le reste. Monsieur Vaudrey resta en arrière, attendant la fin de ces démonstrations si naturelles. Mais à sa grande surprise, il n'y en eut pas. Mrs. Winstanley continua de s'éventer avec force. Le capitaine se dandina sur un pied, sifflant entre ses dents, regardant au plafond, ne semblant nullement s'apercevoir de la présence de sa belle-fille ni de celle de M. Vaudrey. « C'est vraiment très mal, Violette !» s'écria enfin la mère. « Chère maman, s'écria Violette tout abasourdie, qu'ai-je donc fait ?»« Allez courir les champs !» poursuivit Mrs. Winstanley d'un ton plaintif. « Toute une journée sans que l'on sache où vous trouver. Et mon télégramme est resté là sans personne pour le recevoir. »« Vous avez télégraphié, maman ?»« Si j'ai télégraphié, reviendrai-je sans prévenir de mon retour ? Serais-je assez folle pour m'exposer à un outrage pareil à celui que je reçois ?» « Chère maman, vous m'inquiétez. Qu'est-il arrivé ? Une des plus profondes humiliations que j'ai jamais endurées. Mais vous étiez à courir dans la forêt. Vous suiviez l'instinct de votre nature sauvage. Que vous importait que je fusse mortifié ? Si ma dépêche eût été adressée à ma femme de charge, cela ne serait pas arrivé, mais je me fiais à ma fille. « Maman, expliquez-vous de grâce. Qu'est-il arrivé ? Violette, votre beau-père et moi avons été obligés de revenir ici dans un fiacre. »« Oh, maman !» s'écria Violette avec un soupir de soulagement. « Et c'est tout ?»« Comment c'est tout ? N'est-ce donc pas suffisant ? Comprenez-vous, enfant ? Un fiacre, un vulgaire fiacre d'auberge que tout le monde peut avoir pour une demi-guinée. »« quand tout le monde pouvait nous voir. Non, je n'ai jamais subi pareille humiliation. Et puis, il nous a fallu attendre un bon quart d'heure tandis que Pycroft faisait atteler. Oui, on sortit de l'écurie un cheval impossible. Et un homme qui ne s'était pas lavé la figure depuis une semaine passa un vieux paletot. Tous les porteurs du chemin de fer me regardaient et riaient à la dérobée, j'en suis sûr. Puis, pour combler la mesure, le colonel Carteret passa dans son phaéton, juste au moment où nous montions dans cet affreux véhicule. Il s'est même arrêté pour nous serrer la main et a insisté pour m'aider à monter dans cette voiture. Chère maman, je ne sais comment vous dire combien j'en suis fâché, mais je craignais quelque chose de plus sérieux. Rien ne pouvait être plus sérieux, Violette. La dépêche demandait alors d'envoyer la voiture à votre rencontre ? Mais certainement, nous avons télégraphié ce matin à 9h. Qui aurait pu vous supposer sorti à pareille heure ? Je ne sors pas souvent aussi matin, mais ce matin, il est arrivé quelque chose qui m'a mis hors de moi, et je suis sorti pour faire une promenade. Une promenade qui dure de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, fit remarquer le capitaine Winstanley, dont le regard était toujours fixé dans le vide. C'est peut-être une promenade un peu longue pour une jeune fille seule. Vixen fit semblant de n'avoir rien entendu. Roderick Vaudrey avait une envie terrible de souffléter le nouveau maître de l'abbaye. « Maman, voulez-vous que je vous verse du thé ?» dit simplement Vixen. « Si vous voulez, je suis abîmé de fatigue. » Ne pas avoir eu en pareille occasion une voiture à sa rencontre. Je suis sûr que tout le monde le sait dans la forêt. Lorsque, avec votre pauvre père, je suis revenu de mon voyage de noces, les cloches ont sonné tout l'après-midi, la route était bordée de gens qui voulaient nous voir. On avait dressé des arcs de triomphe garnis de fleurs. « Maman, ces choses-là n'arrivent pas deux fois dans la vie, » dit Vixen avec tristesse. « Une femme ne peut espérer qu'une fois un mariage heureux. » « Une femme peut espérer qu'on lui enverra sa voiture, » dit le capitaine Winstanley. « Je crains d'avoir choisi pour ma visite un mauvais moment, » dit Roderick en s'avançant vers Mrs. Winstanley. « Mais je ne puis partir sans vous souhaiter le bonjour. J'espère qu'à part le fiacre, vous avez fait un excellent voyage. Comment allez-vous, Roderick ? Oui, il a été charmant, sauf ce dernier contretemps. » « Figurez-vous ce que ferait la duchesse de Dovedale si elle ne trouvait pas à la gare sa voiture. »« Ma tante aurait tranquillement relevé ses jupons et serait revenue à pied, » répondit Roderick en souriant. « C'est une petite femme pleine de ressources et que jamais rien n'embarrasse. »« Oui, peut-être dans une occasion ordinaire, mais aujourd'hui c'est bien différent, notre retour va faire jaser. »« Bien des gens sont encore absents, » insinua Roderick pour la consoler. « Oui, mais les domestiques le sauront et ils le raconteront à leur maître. Tous les commérages commencent ainsi. De plus, le colonel Carteret nous a vus. Et ce qu'il sait, tout le monde en est instruit. » Roderick comprit qu'il perdait son temps à essayer de calmer le puéril dépit de Mrs. Winstanley. Pour Violette, il eut tenté de grand cœur un nouvel effort. Triste atmosphère de famille que celle où il se voyait obligé de laisser sa camarade d'enfance, juste au début d'une nouvelle existence. Le capitaine Winstanley se renfermait dans un silence glacial. Mrs. Winstanley ne songeait même pas à offrir une tasse de thé. Violette était allée s'asseoir de l'autre côté de la cheminée, pâle et silencieuse, ayant à ses pieds Argus dont elle caressait la tête. « J'ai inspecté ce matin l'émeute, » dit Roderick en regardant le nouveau maître de l'abbaye, avec l'intention de donner à la situation une tournure un peu moins embarrassante. « Nous commençons à chasser le premier du mois. Vous serez des nôtres, n'est-ce pas ?»« Mais oui, j'espère chasser de temps en temps. »« Je ne serai pas un seul instant tranquille pendant votre absence, » dit Mrs. Winstanley. « J'étais toujours inquiète du pauvre Edward. » Vixen tressaillit. Ses remarques insouciantes au sujet du défunt lui étaient plus sensibles qu'un oubli complet. Se souvenir et parler aussi légèrement, cela lui paraissait horrible. « Je ne pense pas chasser beaucoup cette année, » poursuivit le capitaine Winstanley, afin de témoigner qu'il n'avait pas de reconnaissance à avoir au nouveau maître des chasses. « J'aurai beaucoup à faire. Ce château a été depuis quelques années fort négligé, naturellement. Il y a de la besogne à n'en pas finir. » Allez-vous démolir l'abbaye pour construire sur ses ruines une villa italienne ? Demanda Vixen avec un sourire de suprême dédain sur les lèvres. Ce serait malheureux. Quelques personnes trouvent que c'est un beau château et il appartient à la famille de mon père depuis Henri VIII. Ces paroles sonnèrent aux oreilles du capitaine comme une insolence à peine dissimulée. L'abbaye devait plus tard appartenir à Violette. Ni lui ni sa femme n'avaient le droit de toucher à une seule pierre. C'était à se demander s'il pouvait couper un seul arbre sans autorisation de la cour de chancellerie. « J'espère ne rien faire de préjudiciable à cet antique domaine, » dit-il poliment. « Ma tante viendra dans une semaine ou deux, Mistress Winstanley, » dit Roderick. « Dès qu'elle sera rentrée à Ashbourne, elle viendra vous rendre visite et j'aurai l'honneur de l'accompagner. Pour le moment, le mieux que j'ai à faire, je crois, est de prendre congé de vous. J'ai une longue course à faire pour rentrer chez moi et vous êtes trop fatigué pour désirer causer beaucoup. » « Je suis en effet très fatiguée, » répondit Mrs. Winstanley avec nonchalance. « J'aurais cependant aimé à vous entendre raconter des nouvelles. J'en connais fort peu, je ne suis revenu qu'hier soir. Je chassais le canard sauvage à Renfrew. « Y a-t-il beaucoup d'oiseaux cette année ?» demanda le capitaine d'un air indifférent. « Assez, quoique les pluies du printemps aient détruit beaucoup de petits. » « Vous rappelez-vous une année où l'on n'ait pas formulé pareille plainte ?» reprit le capitaine. Après quoi, Rory se retira, non sans avoir donné à Violette une sympathique et encourageante poignée de main, accompagnée d'un regard significatif qui lui disait plus clairement que des paroles « Vous avez un ami sincère et fidèle, advienne que pourra. » Vixen le comprit, et tout à coup des larmes voilèrent ses yeux. Elle les essuya vivement, mais pas assez promptement pour empêcher le capitaine Winstanley de les remarquer. « Si vous voulez me permettre, maman, je cours m'habiller pour le dîner, » dit-elle. « À moins qu'il n'y ait quelque chose à faire pour vous, votre appartement est prêt. »« Tant mieux, » répondit Mrs. Winstanley avec aigreur, « car, après notre réception à la gare, je m'attendais à trouver ici tout de travers. » « Chère maman, vous savez bien que c'était un accident. »« Un accident qui devait forcément arriver quand une jeune fille se permet une promenade en tête-à-tête dans la forêt avec un ancien ami, au lieu de rester chez elle à attendre des nouvelles de sa mère, » dit le capitaine en caressant doucement un de ses favoris. « Que voulez-vous dire ?» demanda Vixen en se tournant de son côté. « Je suis sorti seul ce matin. Nous nous sommes rencontrés par hasard au chenil, Monsieur Vaudrey et moi. » « Tout un chapitre d'accidents, » ricana le capitaine. « Je n'ai pas d'observation à faire, Miss Tempest, si votre mère n'en a pas. Mais je le regrette pour la jeune personne que M. Vaudrey est sur le point d'épouser. M. Vaudrey était l'ami de mon père. Il ne cessera jamais d'être le mien, » riposta Vixen, dont les yeux étincelaient. « Il n'y a rien dans notre amitié qui puisse offenser Lady Mabel. » Elle était partie avant que son beau-père eût pu lui répliquer « où sa mère l'a grondé pour son manque de respect envers son nouveau parent. « Je ferais aussi bien d'aller m'habiller, je crois, » dit Mrs. Winstanley. « Ce soir, nous causerons de notre prochain grand dîner. Nous aurons demain dans l'après-midi beaucoup de visites. Ce sera très fatigant. Ces félicitations faites à une veuve récemment remariée n'ont pas la même sincérité que celles qui sont faites à une jeune mariée. » « Je dirais même, si je l'osais, qu'elle sente le réchauffer, » dit le capitaine. « Mais que voulez-vous, du moment que vous habitez un pays où votre premier mari était connu et populaire ? Si nous allions au milieu d'étrangers, leurs félicitations seraient plus sincères. Mais j'aime à croire que vous n'en êtes pas à regretter ce que vous avez fait, ma chère Pamela. » « Conrad, comment pouvez-vous imaginer une chose pareille, après vos délicates attentions, vos soins dévoués pour moi pendant notre voyage ?»« Et quelle robe mettrai-je ce soir ? Laquelle préférez-vous ? Ma toilette bleue et ambre, voulez-vous ? » ?»« À mes yeux, toutes les nuances vous vont, mais je crois qu'une femme, il allait dire, de votre âge, mais il se reprit à temps. Une femme dans la maturité de sa beauté est mieux en velours, ou bien quelque étoffe lourde et riche qui tombe en plis majestueux comme les draperies dans un tableau de Velasquez. Une garniture de fourrure est aussi fort jolie dans la toilette d'une femme. Vous en voyez souvent dans les portraits de Velázquez. De riches dentelles sont toujours admirables. Pour les couleurs, je préfère les nuances soutenues, le grenat, le rubis, le brun, avec un petit liseré d'ambre. « Comme vous parlez bien !» s'écria Mrs. Winstanley, enthousiasmée. « Je voudrais que Théodore pût vous entendre. Cela lui donnerait des idées nouvelles, car, après tout, les meilleures couturières sont bornées. La saison n'est pas encore avancée pour le velours. Je prendrai ma robe de brocart vert foncé avec la vieille dentelle flamande. Je suis heureuse que vous aimiez la dentelle, c'est mon faible. Mon cher Edward lui-même, si généreux cependant, me trouvait un peu extravagante avec mes dentelles, mais quand on commence à collectionner, on ne peut plus s'arrêter. Bon Dieu, ma femme serait-elle une collectionneuse ? Pensa le capitaine Winstanley, effrayé. Il faudra mettre ordre à cela, sans quoi elle me ruinerait. Puis il alla s'habiller. C'était un sacrifice fait à sa nouvelle position, mais qu'il trouvait assez ennuyeux. Il eût aimé à dîner en jaquette, à fumer toute la soirée, ce qui ne lui était plus permis maintenant qu'au dehors ou dans le fumoir. Le hall même lui était interdit, on s'y réunissait et Mrs. Winstanley ne pouvait supporter la fumée. « Je ne suis ni capricieuse ni maniérée, disait-elle à son mari au début de leur lune de miel. Mais la fumée m'est odieuse. Ce n'est pas trop vous demander, je pense, de ne jamais fumer dans les pièces où je vais. » Le capitaine Winstanley l'assura qu'il respecterait ce désir aussi bien que tous ceux de sa femme. Sa politique consistait à être coulant sur les détails, afin d'être le maître dans les choses essentielles. Mais cette toilette pour le dîner lui était positivement une fatigue. Il ne pouvait souffrir ces dîners en tête-à-tête qui dégénéraient en dîners de cérémonie. Il avait été jusqu'à proposer, pendant leur voyage en Écosse, le dîner à la table d'hôte. Mais Mrs. Winstanley avait repoussé cette idée avec horreur. « Je n'ai jamais dîné à la table d'hôte, Conrad !» s'écria-t-elle. « Et certes, je ne commencerai pas pendant mon voyage de noces.